Ça fait plaisir d'élever le nom de Jésus, de l'adorer et de lui dire notre reconnaissance. On lui dit notre joie et on l'honore en nous accueillant les uns les autres, comme lui nous a accueillis. Il est notre modèle et nous suivons ses traces. Et il est dit, accueillez-vous les uns les autres. Et s'accueillir, ça va plus loin que se dire bonjour. Je vous laisse réfléchir à ça. Parce que si nous sommes là, ben c'est d'abord grâce à lui. C'est lui le bon berger. Il est allé chercher chacune de ses brebis perdues. Des brebis blessées, des brebis affamées, assoiffées, pour les rassembler en un seul troupeau dont il est le berger. Et ce matin, c'est lui qui sera le centre de ce message. Il y aura beaucoup de textes qui vont s'afficher. Et c'est ces textes-là qui sont inspirés. Moi, j'espère porter la parole de Dieu, et c'est cette parole-là qui doit rentrer dans votre cœur. C'est lui, Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Et Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a décrit notre situation avant la venue du bon berger. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait son propre chemin et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout l'évangile est résumé là. Mais qu'est-ce qui a fait de nous des brebis errantes? Ben, il faut remonter à l'aube de l'humanité, dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter à nouveau. Quand le serpent a réussi à convaincre Ève que Dieu les avait trompés. Dieu avait dit au sujet de l'arbre, un seul arbre au milieu de tous les arbres du jardin qui était très bon, un seul arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est dit deux fois. Mais le serpent, rusé et qui avait une idée derrière la tête, a laissé entendre à Ève que Dieu leur cachait quelque chose d'essentiel. Il a réussi à semer le doute dans l'esprit de la femme. Et non, vous ne mourrez pas, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et là, dans la tête d'Ève, un petit vélo, elle regarde le fruit, ça commence à titiller dans sa tête. Et puis, ben, Dieu n'était peut-être pas si bon que ça, il nous cache des choses et on va essayer d'entrer dans cette connaissance du bien et du mal pour devenir comme Dieu. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu les avait déjà fait à son image, entre parenthèses. Voilà, et comme vous connaissez la suite, le fruit défendu, la fuite du jardin, l'expulsion du jardin de la présence de Dieu pour connaître le bien et le mal. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté de connaître le bien et le mal? Eh bien, le tiraillement, les choix entre probité et mensonge, entre paix et violence, entre amour et haine, entre pardon et rancune, et on pourrait continuer ainsi longtemps. Faire le bon choix, maintenant, c'est le lot de tous les humains. Pour avoir vraiment la paix en nous, il faudrait faire taire sa conscience, parce que la conscience nous accuse ou nous approuve. Et l'apôtre Paul a très bien su décrire le combat de celui qui veut faire le bien et qui n'y arrive pas. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ouh, quelle phrase qui nous met vraiment mal à l'aise. Est-ce qu'on est comme ça? Et le péché habite en moi? Ah ben voilà un locataire dont ce serait bien passé. Mais ce péché qui habite en moi et contre lequel je dois constamment lutter, c'est la racine, celle qui va donner tous les péchés. Les péchés, ce sont le fruit de cette racine, la colère, le mensonge, l'adultère, les vices débauches, la violence, les jalousies, les convoitises, et j'en passe. On classifie les péchés en petits et en grands péchés, mais pour Dieu, il n'y a qu'un péché. Tous les péchés ont la même valeur. Nous amènent à la mort. La racine du péché, elle s'appelle rébellion. La rébellion, elle se manifeste très tôt, dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 3 ans, peut-être même avant, l'enfant se rebelle contre l'autorité. Alors, les psychologues disent qu'il faut qu'il affirme sa personnalité. Non, c'est la rébellion. De dire non, de se rebeller contre l'autorité, c'est au fond de nous, c'est la racine de tous les péchés. Et quand Adam et Ève ont trahi leur Créateur, la relation a été brisée et leur esprit qui était relié à Dieu est mort. C'est ce que Dieu avait dit, tu mourras, tu deviendras mortel. Nous avons été coupés de la source de vie et nous sommes devenus mortels. La mort n'était pas dans le plan de Dieu, elle est advenue comme conséquence de la rébellion et du péché. En Romains chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Pas un n'échappe à la mort. » Mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Il avait mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Chaque homme a en lui la pensée de l'éternité. Mais les hommes ont dévoyé cette intuition, cette pensée, avec toutes sortes de croyances et d'illusions. De tous les temps, les hommes ont cherché l'immortalité et pensé que ce qu'ils faisaient sur la terre avait un impact sur la vie dans l'au-delà. Et une déviance de cette intuition, c'est la croyance en la réincarnation, avec l'idée que l'âme survivrait à la mort et pourrait se réincarner de nombreuses fois jusqu'à une étape finale pour enfin être absorbée par le grand tout. Il y a plusieurs... ça va dans tous les sens, mais ça revient toujours au même, et c'est le socle des religions orientales. Mais c'est une erreur, parce que la Bible est claire, Hébreux 9, 27... Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Je répète le début du verset, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tout n'est pas désespéré. Une partie de l'humanité recherche le bien. Et Paul dit que c'est le signe que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Des hommes et des femmes ont constamment cherché à renouer avec Dieu et beaucoup ont laissé un témoignage inspirant par leur vie de foi. Alors on va faire un petit inventaire de ceux qu'on connaît, surtout au travers de la Bible, de ces hommes qui ont cherché Dieu, chercher à lui plaire, chercher à marcher avec lui, avec ce qu'ils connaissaient de lui. On a d'abord Enoch, le premier homme qui a été enlevé vers Dieu sans passer par la mort, parce qu'il marchait avec Dieu. Et Noé, qui trouva grâce aux yeux du Seigneur, et qui a été sauvé en construisant l'arche dans laquelle sont rentrés tous les animaux de la terre. Abraham, le père des croyants. Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Égypte et qui a donné la loi à Israël. Josué, qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et puis, on pourrait parler de Samson, Déborah, Samuel, Élie, David, le poète du Seigneur et le roi, et tous les prophètes et les rois qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu et qui ont parlé de la part de Dieu, annonçant la venue d'un Messie sauveur. La trace de Jésus est dans les Écritures, depuis les premières pages, depuis que Dieu a dit à Satan, je t'ai, la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Et toute l'Écriture, nous avons les traces de la venue de Jésus, le témoignage de qui, comment et que fera Jésus sur la terre. Et Paul, quand il s'adresse aux Athéniens dans son fameux discours, c'est dans les Actes des Apôtres, leur présente un Dieu qui est proche tout en se cachant. Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Sans Jésus, sans Dieu, sans Jésus, on cherche en tâtonnant. On cherche la vérité, on cherche la lumière. Et beaucoup de gens cherchent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont encore en train de tâtonner. Et le Seigneur n'est pas loin d'eux. Le Seigneur est pas loin de chacun de nous. Dieu a toujours cherché à entrer en contact avec ses créatures. Et Dieu parle aussi par la création, par la beauté de la nature, par la perfection du monde visible. Tout ce que l'on voit devrait, de magnifique dans la nature devrait nous pousser à adorer et à louer notre Créateur pour sa bonté, pour sa magnificence, pour l'amour qu'il a déversé dans tout ce que nous voyons. Mais beaucoup, beaucoup ont refusé de rendre gloire à Dieu, préférant se faire leur propre Dieu selon leur imagination. Et là, on a tous les dieux de l'Olympe, tous les dieux inventés par les hommes, qui ne sont pas mieux que nous, pas mieux que les hommes, d'un fois en pire. Et ça, c'est l'esprit humain qui se détourne du Dieu vivant, du Dieu vrai, pour se tourner vers des idoles fabriquées par les hommes et par l'imagination. Et Paul, au début de l'Épître aux Romains, dresse un tableau bien sombre de cette humanité qui rejette Dieu et son autorité. « En effet, dit-il, en Romains, chapitre 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. » Au contraire, ils se sont égarés et leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà où va la non-reconnaissance de Dieu dans l'humanité. Le rejet, la rébellion. Mais au temps fixé, Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde. Voilà enfin le plan de Dieu qui commence à prendre forme. Il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver Jésus. Et Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né d'une jeune fille, Marie, fiancée à Joseph. Il a grandi et il s'est formé au métier de charpentier dans une petite bourgade de la Galilée au nord d'Israël, Nazareth. Je voudrais faire un petit détour par charpentier. Parce que charpentier, c'est un mot grec, je ne connais pas le grec, hein, mais j'en connais un petit peu de mots comme ça. C'est tecton, qui a donné technologie. Et d'après ce que j'ai lu de gens qui ont étudié ce mot-là au temps de Jésus, charpentier, c'était plus que celui qui faisait des charpentes ou des poutres, c'était celui qui concevait les plans de la maison et qui construisait la maison. Et je crois que ça fait du bien de savoir que Jésus, jusqu'à 30 ans, a fait des plans de maison, a construit des maisons pour les gens. Quand on sait que maintenant c'est lui qui a construit son église, qui a bâti son église, c'est extraordinaire de voir que Dieu l'avait déjà préparé avec des choses toutes humaines. Et il habitait dans cette petite bourgade de Galilée au nord d'Israël. Et à l'âge de 30 ans, jusqu'à 30 ans, on ne sait pas grand-chose de Jésus, à part à 12 ans, il est dans le temple et pendant 3 jours, il discute avec les chefs religieux à Jérusalem, avec les scribes, avec tous les docteurs de la loi, et ils sont étonnés par sa sagesse, par les questions qu'il pose. Et c'est tout. Il dit à ses parents, bah, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, on ne sait pas ce qu'a fait Jésus à part être charpentier. Donc, à l'âge de 30 ans, il commence à visiter les villes de Galilée. Il fait du bien, il guérit tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, parce que Dieu est avec lui. Il chasse les démons lui sont soumis. Il enseigne les foules, et les foules le suivent. Ils boivent ses paroles, parce que, disent-ils, il n'enseigne pas comme nos scribes. Il parle avec autorité, les démons lui sont soumis, il fait tout à merveille. Le peuple se réjouit de voir ce que Jésus fait. Jésus est né libre, libre du péché. C'est le seul à être né libre du péché, puisqu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Et il a vécu sans péché. Il a cependant, dit la Bible, été tenté comme nous, en toutes choses, parce qu'il était parfaitement humain. Et tous les domaines, il a été tenté dans tous les domaines de tentation que nous connaissons. Il les a connus, la tentation, mais lui, il n'a pas succombé. Il n'a commis aucun péché. Et il a même pu dire aux Juifs qui lui étaient hostiles, les Juifs religieux qui voulaient sa mort, « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Jésus est apparu pour enlever les péchés. En le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 5, « Jésus est apparu pour enlever les péchés, il n'y a pas de péché en lui. » Pour ôter les péchés, il fallait un homme qui n'ait pas péché. Jésus a toujours été soumis à son Père. Il n'a jamais cherché à faire sa propre volonté. Écoutez, dans le jardin de Gethsémané, écoutez-le. Il suppliait son Père d'éloigner de lui le supplice de la croix. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi ce supplice. Éloigne de moi ces moments atroces. Et à Gethsémané, il priait son Père et des grumeaux de sang coulaient de son front, perlaient sur son front tellement l'angoisse l'avait pris. Et il aurait aimé pouvoir échapper à ce supplice, à cette mort, à cette séparation d'avec Dieu à cause du péché, parce qu'il savait que c'était ça qui lui l'attendait. En plus de toutes les souffrances, il a des devoirs, vivre ce que nous vivons, la séparation d'avec Dieu. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, ce supplice, cette mort atroce. Dis autrement. Peut-être que Jésus supposait, si tu pouvais trouver un autre moyen pour sauver les hommes, si on pouvait trouver autre chose, une autre solution. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Et Jésus a accepté la volonté de son Père par amour pour nous. Oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est un mystère. Mais c'est comme ça. Si Dieu avait eu une autre solution, comme il est amour, plein de bonté, il aurait trouvé une autre solution. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'il y avait en face de Jésus un ennemi méchant, cruel, celui qui est appelé voleur dès le commencement, celui qui est appelé le criminel. C'était lui qui était en face de Jésus, le géant qu'il fallait abattre. Pas d'autre moyen, pas d'autre médiateur, pas d'autre sauveur que Jésus. On va lire une déclaration de Pierre devant le tribunal religieux de Jérusalem. Quand les chefs religieux juifs, ceux-là même qui ont fait crucifier Jésus il y a quelques semaines plus tôt, veulent lui interdire de parler et de faire des miracles au nom de Jésus, parce que eux, ils viennent de guérir un paralytique. Et on les accuse, ils sont devant le tribunal. Et Pierre affirme, acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça ne peut pas être plus clair. Si vous cherchez ailleurs, arrêtez tout de suite, parce que vous faites fausse route. Jésus, quand il parcourait le pays d'Israël, manifestait le cœur de son Père. Il a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et il manifestait tout ce que le Père voulait montrer de lui, Jésus l'a montré. Il accueillait tous sans mépris, sans faire de favoritisme. Il accueillait les gens de mauvaise vie, les marginaux de son époque, et ça, on le lui a bien reproché. Ceux qui prenaient à leur aise, les lois religieuses, ils n'avaient rien à faire des lois religieuses. Eh bien, c'est ces gens-là que Jésus accueillait. C'est un mangeur et un buveur. Il n'est qu'avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Voilà comment Jésus était catalogué. Le Fils de Dieu est allé vers les brebis perdues. Il a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, bonne nouvelle, si vous vous savez pécheur, Jésus vous appelle à le suivre et à devenir son disciple. Si vous êtes pécheur, vous êtes vraiment la bonne personne pour Jésus. Ok ? Alors, pécheur, ça veut dire péché, offense, iniquité. Parlons-en. Ben aujourd'hui, ce sont des mots que l'on n'aime plus entendre. Et pourtant, c'est bien le péché qui a conduit Jésus à donner sa vie en mourant sur la croix. Et la croix, c'est le supplice le plus dégradant, le plus atroce qui soit. Les Romains ont crucifié des milliers de personnes. Les voleurs, les criminels, les rebelles, tous ceux qui s'élevaient contre la puissance romaine étaient crucifiés, mis sur une croix, parfois seulement attachés avec des cordes et restant là des heures et des heures, en plein soleil, jour, nuit, pendant plusieurs jours certains, avant d'expirer, avant de mourir. C'est un supplice, d'après ce que certains disent, c'est le pire qui puisse exister. Et c'est ce supplice-là que Jésus a dû subir pour nous. Et Jésus, avant d'être crucifié, lui, on ne l'a pas attaché à la croix. On a percé ses mains et ses pieds avec des clous. Il n'était pas seulement... Il était cloué sur une croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. La prophétie, le psaume, dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et avant d'être crucifié, Jésus a dû subir la flagellation, les coups. Tout son corps a été lacéré, tout son corps a été meurtri par 40 coups de fouet, par des coups. On lui a mis sur sa tête une couronne d'épines et tout son corps n'a été que plaie. Il y a un médecin, une femme médecin, je ne sais pas si c'est médecin légiste ou médecin urgentiste, enfin peu importe, qui a étudié les effets de la flagellation avec ses fouets au bout desquels il y avait des silex, comme des lames de rasoir tranchantes. Et elle a dit que tout le corps, tous les organes internes de Jésus avaient été atteints. Tous les organes internes. Ça n'a pas seulement ébranlé l'extérieur. Absolument tous les organes internes ont été meurtris, blessés. Voilà ce que le Seigneur a souffert sur la croix. Voilà ce qu'il a subi pour nous. Alors, petite question. Pourquoi, en plus d'avoir versé son sang, qui purifie les péchés, pour les péchés, donc quand Jésus a fait le sang, seulement faire couler le sang, ça suffisait pour purifier nos péchés. Pourquoi a-t-il dû subir dans son corps une telle atteinte? Pourquoi tous ses organes, tout son corps sans exception a été meurtri et blessé. Ben Pierre nous le dit, et Esaïe nous le dit, c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous purifie, ces meurtrissures nous guérit. Il s'est chargé de nos maladies sur la croix. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. Beaucoup de maladies sont la conséquence du péché. Je ne dis pas toutes, hein, mais une grande partie des maladies. Et Dieu n'est pas l'auteur des maladies. C'est pour ça qu'il a mis, Jésus a pris nos maladies en mourant sur la croix. C'est une vérité qu'il faut rentrer en nous. Parce que, gardez, nous, quand nous sommes malades, disons, eh bien, le Seigneur a porté ma maladie sur la croix. C'est lui qui s'en est chargé. Voilà ce que le Seigneur a souffert pour nous. Et non, peut-être que dans l'adoration et dans la reconnaissance. Le sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus, les deux sont. Parce que quand on offrait l'agneau sans défaut, qui représentait le sacrifice final de Jésus dans l'Ancien Testament, on offrait un agneau sans défaut pour le pardon des péchés. On offrait un animal. Et l'homme qui avait péché posait sa main sur la tête de l'animal. Et les péchés étaient transférés sur l'animal. Et l'animal était tué à la place de l'homme. Et l'homme était, le péché était couvert. Avec Jésus, qui est l'agneau parfait, son sang nous purifie et ôte. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il y a une différence entre le sacrifice parfait de Jésus une fois pour toutes et les sacrifices de l'Ancien Testament qui seulement annonçaient, préfiguraient la venue de Jésus et de l'agneau immolé et de l'agneau parfait. Avant qu'on connaisse le Seigneur, qu'est-ce qu'on était ? Éphésiens 2, versets 1 et 2. Paul décrit la condition des chrétiens avant leur changement de vie. Vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, il est là, c'est celui que Jésus est venu vaincre, c'est celui que Jésus est venu détrôner. C'est un prince maléfique, et Jésus est le roi de paix, le roi d'amour, et il est venu détrôner ce prince-là. Et il agit dans les fils de la rébellion. Et il trouve toujours sur la terre des hommes ou des femmes pour mettre en place ses projets de destruction de la planète, de destruction des couples, donner des philosophies, des conceptions, des religions plus ou moins troubles pour détourner les gens de la vérité. Dieu avait délégué son autorité sur la terre à l'homme et à la femme. Vous, il leur avait dit, dominez sur la terre. Et cette autorité, ils l'ont remise à Satan. C'est pas anodin. Ils ont remis leur autorité à Satan. Et Satan est devenu celui qui dirige la terre. Ils sont devenus ses otages et ses exécutants. C'est pour ça qu'on a toujours un combat en nous. Qui allons-nous écouter, le bien ou le mal ? Quand le diable vient pour tenter Jésus dans le désert, il lui propose de lui donner la puissance et la gloire des royaumes sur toute la terre à condition qu'il se prosterne devant lui. Car, dit-il, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais Jésus ne l'a pas contredit. Jésus n'a pas contredit Satan, il a seulement dit... Tu te prosterneras seulement devant l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Mais il n'a pas dit, c'est pas toi qui a l'autorité sur la terre en ce moment, sur la terre, pas partout. Hein. Et Jésus est venu pour reprendre au diable ce qu'il a volé, ce qu'il nous a volé par la ruse et le mensonge. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Écraser la tête, ça veut dire qu'il lui a enlevé son pouvoir. Et le texte dit qu'il lui a blessé au talon, ça veut dire que Jésus a dû mourir pour ça. Mais Jésus est le prince de la vie, Jean 11, verset 25. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça, c'est une phrase. Personne n'a pu la dire sur la terre. Je connais personne d'autre qui a osé dire ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous y croyez ? Bon, merci Seigneur. Et Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire de nous redonner la communion avec Dieu qui avait été coupée. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu intimement. Non plus au travers d'actes religieux. Nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Et ça, il faut la cultiver. Il faut vraiment cultiver cette relation d'intimité parce que Dieu donne, révèle ses secrets à ses adorateurs. Soyez des adorateurs. Passez du temps dans la communion du Seigneur et dans son intimité. Parce que ce n'est pas des actes religieux qui vont nous faire nous approcher de Dieu. Et les gens pensent qu'en faisant des abstinences, que les gens ont inventé toutes sortes de préceptes et pour s'attirer les faveurs ou les grâces de Dieu. Non, ça ne sert à rien de faire des pénitences, de faire des sacrifices pour s'attirer la faveur de Dieu, parce que la grâce et la faveur de Dieu nous sont données au moyen de la foi dans le sacrifice de Jésus. Et on ne peut rien y ajouter. Et chercher à y ajouter, c'est offenser Dieu. Parce qu'il a fait le maximum. Et vous, vous voudriez encore rajouter, payer une petite obole à Dieu pour ce qu'il a fait ? Non, on ne peut rien lui donner. Sinon nos cœurs et nos vies. Celui, 2 Corinthiens 5, 20, c'est très clair. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Relisez bien, il n'est pas dit que Jésus a été fait pécheur. Mais que Dieu, quand Jésus était sur la croix, lui a imputé nos péchés. Il a mis le péché, notre rébellion, sur le compte de son Fils, pour qu'il subisse la condamnation à notre place, pour que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Jésus a supporté la juste peine que méritaient nos péchés, pour que nous soyons déclarés justes. La justice de Jésus nous est imputée, elle est mise sur notre compte. C'est légal, c'est comptable, c'est pas une parole en l'air, c'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le cœur de Dieu. Il donne sa justice à ceux qui croient en Jésus. Il y a échange. Lui, Jésus, prend le péché qui nous condamnait à la mort éternelle, et il nous donne sa justice. Un verset que tout le monde connaît par cœur. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Vous pouvez le répéter, le dire à ceux à qui que vous rencontrez. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est très simple. Croire, c'est s'engager à suivre Jésus et à lui obéir. Croire, c'est répondre à l'amour infini, l'infini de Dieu manifesté en Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Timothée 2,5. Il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul médiateur. Les hommes constamment cherchaient à renouer avec Dieu de toutes sortes de manières possibles. C'est au fond d'eux. Le sentiment religieux, il est au fond de chaque homme. Mais là, c'est une phrase qui choque. Et j'ai entendu des gens être vraiment choqués par cette idée qu'il n'y en avait qu'un, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de salut. C'est la phrase qui choque, et beaucoup. Alors, à quoi sert de pratiquer les religions, disent-ils ? Que faire avec les autres religions ? On dit bien, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Ben oui, mais on peut se tromper très sincèrement. Écoutez, si vous voulez aller à Lille et que vous montez dans le TGV pour Marseille, très sincèrement, ben je peux vous dire que si vous êtes sincère, vous arriverez obligatoirement à Lille. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas ? Bon, vous n'êtes pas d'accord, moi non plus. Eh bien, on entend aussi, chaque religion a sa part de vérité. On peut se faire sa religion à la carte. Prendre un petit peu ici, un petit peu là. Et puis, le bon Dieu, il verra bien qu'on a fait comme on a pu. Ben, désolé, ce bon Dieu-là, moi, je le connais pas. Et j'en voudrais pas. Parce que si faire de son mieux avait vraiment pu sauver les hommes, Dieu n'aurait pas donné son Fils en sacrifice pour nos péchés. Il ne l'aurait pas livré en rançon pour nous tous. Parce que nous étions des otages du diable et Jésus a payé notre rançon parce que nous étions incapables de la payer nous-mêmes. Et si vous n'avez pas accepté le salut que Dieu vous offre en Jésus, vous êtes encore un otage du diable. C'est la vérité, il faut la regarder en face. Ou on appartient au Seigneur, ou on est encore un otage de celui qui nous veut du mal, qui veut notre mort et qui nous conduit à la perdition éternelle. Et il s'en frotte les mains. Si vous restez avec lui, il est content. La croix est scandaleuse. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. C'est de la folie. C'est de la folie, ça choque. Et il y en a même qui disent que maintenant, bon, ça choque. Alors, Jésus, il est quand même mort sur la croix, mais bon, on essaye de trouver des explications sur son procès, sur un procès truqué. Voilà, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Non, non, non. Toute la Bible annonçait déjà que Jésus devait mourir sur la croix. Lisez Ésaïe 53, lisez le psaume 22 et bien d'autres passages qui annoncent les souffrances dont la vie de Jésus serait suivie pour nous sauver. Paul déclare aux Corinthiens qu'il n'a voulu prêcher chez eux qu'un seul message, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de Dieu pour la guérison, pour la transformation. C'est une puissance de Dieu pour dans tous les domaines de notre vie. Tout est régénéré. Et c'est une puissance de Dieu pour même pour les villes, pour les villages. Il y a des villages qui se sont convertis tout entiers et la bénédiction est venue sur ces villages, sur ces villes. Et quand on croit et qu'on reconnaît que Jésus sur la croix nous représente et nous remplace, nous comprenons que Dieu nous appelle à la repentance. Comme Dieu a la haine pour le péché tout en aimant le pécheur, il nous appelle à haïr le péché. Acte 2, 38. C'est Pierre qui parle à la foule le jour de la Pentecôte. « Repentez-vous, dit Pierre à la foule. » Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, changez de vie, détournez-vous de votre vie actuelle et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Voilà la marche à suivre. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du monde de Satan à Dieu. Ça, c'est notre expérience. Dès cet instant, nous sommes déclarés justes. Romains 5, 8 et 9. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bon, vous pourrez essayer de le relire tranquillement, c'est un verset un petit peu compliqué, mais... Pour résumer, nous avons changé de statut, de perdu et condamné, nous passons à sauver et régénérer. Dieu nous donne une nouvelle vie. Nous sommes réconciliés avec lui par sa mort. Nous avons la paix avec Dieu. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La paix dont il s'agit, ce n'est pas la paix intérieure, pas seulement. C'est la paix réconciliation. Nous étions séparés de Dieu. Il y avait un contentieux entre Dieu et nous, et Jésus, le médiateur, est venu pour nous donner cette paix, cette réconciliation avec Dieu. Et à cause de ça, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libres à l'égard du péché. Le péché ne domine plus sur nous. Nous ne pratiquons plus le péché. Même s'il nous arrive, s'il m'arrive aussi, encore de péché, le sang de Jésus nous purifie de tout péché en permanence. 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si on tombe, si on chute, si on voit qu'on a péché, revenons tout de suite à Jésus. Vous savez, Jésus, quand Pierre lui demandait combien de fois il devait pardonner à son frère, et que Jésus a dit, pas seulement 7 fois par jour, mais 577 7 fois par jour, c'est-à-dire tout le temps. Et si Dieu nous demande d'être comme ça, c'est parce qu'il est comme ça. Il nous pardonne tout le temps, à condition qu'on reste fidèle à lui. Que ce ne soit pas la pratique. Mais il pardonne tout le temps. On peut toujours revenir au Seigneur. Toujours, toujours, toujours. J'ai connu des gens qui s'étaient vraiment éloignés, qui avaient replongé dans le péché. Et on disait, il est foutu, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont revenus au Seigneur. Et le Seigneur les a pardonnés. Et le Seigneur les a accueillis. Et il les a à nouveau justifiés. Ils ont été justifiés. Ils n'avaient pas perdu leur salut. Ils s'étaient éloignés, mais le Seigneur avait toujours le regard sur eux. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous venons à lui, il ne faut pas avoir peur de ne pas se laisser entraîner. Le diable essaye de nous accuser. Il dit, allez, maintenant c'est foutu pour toi. Non, non, tu t'éloignes, tu ne vas plus au culte, tu ne vas plus, tu pries plus. Tu n'as même plus la peine de prier, le Seigneur est fâché contre toi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Revenons tout de suite au Seigneur. Même si on a gravement péché, parce qu'il y en a qui, on mesure les péchés, mais il n'y a pas de péché grave. Mais des fois, on se dit, celui-là, il est plus grave que d'autres. Non, non, il n'y a pas de péché plus grave que les uns que les autres. Le Saint-Esprit veut collaborer avec nous pour dominer notre ancienne nature, parce que c'est ça qui nous conduit au péché. La Bible appelle ça la chair, l'être humain avec ses désirs, ses passions, qui bien souvent sont opposés à la volonté de Dieu. Les seigneurs nous demandent de nous laisser renouveler dans nos pensées, nos désirs, nos projets, nos ambitions. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et je vais lire un passage dans Romains 12, 2 avec la version amplifiée. Bon, j'aime pas trop les versions amplifiées, c'est la version de QN. Mais là, j'ai trouvé que ça expliquait bien ce que Paul demande aux chrétiens de Rome. Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ayez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Et maintenant que l'on a mis sa foi en Jésus, où est-ce que ça nous mène? Bien, la foi en Jésus, c'est l'espérance de la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, nous avons la promesse de la résurrection, la promesse de revêtir un corps glorieux comme celui de Jésus après sa résurrection, quand il est apparu à ses disciples, qu'il a mangé avec eux. Il apparaissait, il repartait. Le chemin d'Emmaüs, il apparaît, il disparaît. Il vient, il dit, avez-vous quelque chose à manger? Touchez-moi, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit. Jésus avait un corps glorieux et glorifié. Et Pierre dit qu'après la résurrection, Il a mangé et bu avec Jésus. C'était physique. Paul affirme des choses étonnantes. 1 Corinthiens 15, 21. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons transformés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia! La mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alors voilà notre espérance, quand le Seigneur reviendra, que nous soyons morts ou que nous soyons encore vivants, nous avons cette assurance d'être enlevés à la rencontre du Seigneur et d'être pour toujours dans la gloire avec lui, avec un corps glorieux. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une prière, tous ensemble. Merci Seigneur pour le sang de Jésus versé pour moi sur la croix. Je proclame que par son sang je suis justifié, rendu juste comme si je n'avais jamais péché. Amen.